sûr.
C'est bon.
Eh bien, Marthe, si vous voulez, aujourd'hui, nous allons tenter de réhabiliter un légume que l'on appelle l'asperge du pauvre et qui s'appelle
le poireau.
Le poireau.
Je m'appelle Poireau.
Gloire au poireau suprême.
Un poireau.
Un poireau.
Monsieur Poireau.
Il y a tant de façons de les consommer.
En fondue, par exemple.
Il faut leur couper la base, l'eau des feuilles, et les fendre dans toute leur longueur.
Et les passer sous l'eau.
Oh, c'est pas beau, ça.
Si, si, je trouve ça très joli, moi.
Oh non, c'est laid, c'est très laid.
Vous ne finissez pas les poireaux, Louis ?
Non, merci, maman.
Mais enfin, nous allons aller jusqu'au bout et montrer tous nos moyens.
Oh là là.
Voilà, ça y est.
Bon, ma tour.
C'est exactement ce que je voulais.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de savoir, de saveur et de bonne humeur à l'écoute dont on va déguster. Je vous souhaite à tous, au nom de toute l'équipe, un grand millésime 2020. Après les agapes de fêtes qui furent peut-être un peu riches, voire légèrement indigestes, je vous propose un régime de début d'année frugal et végétal autour d'un légume populaire, presque banal et pourtant plein de ressources. Vous l'avez compris, c'est le poireau. Un invité pour le cultiver, une invitée pour le cuisiner. Celui qui le cultive, qui connaît mieux que personne ses secrets botaniques et sa vie rude au potager, c'est notre expert du maraîchage, Xavier Mathias. Bonjour Xavier.
Bonjour François et fils.
Ça va ?
Ouais, très bien.
Cette année 2020 ?
Oui, qui commence bien.
Arrivé avec des bottes de poireaux, il y en a plein de variétés. Hein.
Ah bah oui, c'est le moment là.
C'est le moment. Et rappelons que vous êtes l'auteur de La vie érotique de mon potager chez Terre Vivante, où il est question de poireaux.
Ah forcément.
C'est pas très étonnant.
L'asperge du pauvre.
Vous allez nous expliquer pourquoi justement. Celle qui cuisine le poireau de toutes les façons, ménagères ou créatives, c'est Léa Fleuriot. Bonjour Léa.
Bonjour François Régis.
Vous tenez avec votre frère Louis, le Cadoret, un bistrot plein d'humeur et de sentiments sur les pentes de Belleville, Paris 19e. Un bistrot qu'on pourrait qualifier de gastroquet. Un troquet gastronomique qui garde ses racines populaires tout en faisant de très belles choses dans l'assiette. Ça vous va comme définition ou pas ?
Ça me va, merci.
Et le poireau est souvent au centre de l'assiette ?
Bah oui, on adore le poireau.
Vous adorez le poireau et vous allez nous le cuisiner de plein de façons différentes. Vous allez même nous dresser quelques assiettes qui vont circuler autour du plateau dont on va déguster. Merci d'être avec nous Léa en ce début d'année. Ils entament avec moi une nouvelle année dont on va déguster. Ce sont mes chroniqueurs et aujourd'hui, à mes côtés, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Ça va les amis ?
Très bien.
Déborah.
Moi, tout est bon dans le poireau, c'est bien connu, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il peut être croquant, fondant,
oui.
Même sucré.
Petit livre autour du poireau, il y a même une recette à la clé.
Il y en aura même deux en fait.
Il y en aura même deux. Elle a bien bossé en ce début d'année, Déborah Dupont. Jérôme.
Alors moi, c'est une surprise.
J'ai bien vu, ouais. Je la vois, cette bouteille entourée de papier aluminium.
Exactement.
Qui empêche de voir son identité.
Voilà, tout est à l'aveugle, donc on découvrira ça en fin d'émission.
Énigme vers à peu près 11h48. Stéphane Ronxin à la réalisation de cette première émission de l'année avec Juliette Delpirou derrière la console, Mathilde Verfailly à la préparation. Si vous avez des questions ou des suggestions de recettes autour du poireau, de solutions pour interagir avec nous, le mail on va déguster @radiofrance.com ou le bouton réagir sur l'appli mobile de France Inter. Retrouvez toutes nos recettes et nos infos pratiques, le podcast de l'émission, les podcasts d'ailleurs de toutes les chroniques sur franceinter.fr et sur l'appli mobile de France Inter. Juste avant de s'intéresser au poireau, on vous adresse nos meilleurs vœux pour l'année 2020.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Déborah Dupont, plus qu'un vœu, c'est peut-être une bonne nouvelle pour 2020 ?
Alors, en tout cas, à mes yeux, c'est une très bonne nouvelle. Le chef Thomas Benadi, qu'on avait connu à la machine à coudre à Boulogne-Billancourt,
oui.
Puis au restaurant Horty rue Rodier.
Dans le 9e arrondissement de Paris.
Voilà, franchit le périph et va même un petit peu plus loin, puisqu'il va dans la Manche. Donc ça va plaire à notre ami Dominique Hutin.
Département 50.
Il va s'installer du côté d'Avranches et il va ouvrir une auberge.
Une auberge magnifique, c'est prévu pour quand ?
Plutôt pour le mois de juin, mais je trépigne déjà d'impatience.
Thomas Benadi, c'est quand même un chef assez formidable. Alors moi, je me souviens avoir visité justement le restaurant de Thomas Benadi dans les tout premiers jours de mars 2017, quand il avait ouvert rue Rodier dans le 9e arrondissement de Paris, il y a un peu moins de 3 ans. Et je me souviens en particulier d'une assiette qui avait fait des vagues, mais dans le bon sens du terme, c'était un mariage entre la pintade et l'huître. Ouais, ouais, une pintade bio du Béarn, à la peau légèrement craquante avec un jus parfait, et une huître de Saint-Val-la-Hougue, dans la Manche justement, puisque c'est la patrie, entre guillemets, de Thomas Benadi. Et ça apportait cet accord, l'huître apportait, soutenait en fait la pintade, et apportait de la salinité, de la profondeur. Et vous savez quel était le témoin de ce mariage dans l'assiette?
J'aurais tendance à dire le poireau,
bravo,
vu l'actu du
bravo
jour.
Bravo Déborah, le poireau dans une superbe purée de poireau. Vous aviez entendu parler ou pas, Léa Fleuriot, de Thomas Benadi, qui faisait un travail très, on va parler d'une cuisine végétale et assez écologique?
Oui, bien sûr, oui, j'en ai entendu parler, j'ai jamais eu la chance de manger là-bas, mais bien évidemment que
c'était le restaurant,
m'est venu aux oreilles.
C'était le restaurant Horti, et désormais on pourra déguster bientôt sa cuisine champêtre, écologique, portée sur des produits vraiment locaux. Ça va être pour quand, juste avant l'été?
Oui, j'espère, juin.
Thomas Benadi dans
ça
la Manche,
bien.
Vous nous promettez de nous donner des nouvelles?
Ah, carrément, là, j'ai déjà pris le billet de train, je serai dès le début.
Très bien Déborah, merci beaucoup. Xavier Mathias, un petit vœu pour 2020?
Oui, en fait, j'en aurais même deux. Mmh. Un qui est très personnel, c'est que j'aimerais qu'on oublie un peu le mot environnement, que j'entends partout, et qu'on remette à la place nature. Voilà. Et qui est un peu plus vaste que juste ce qui nous entoure. Ça, c'est le premier vœu. Et le deuxième, c'est une sagesse Navarro qui dit marcher dans la beauté. Que tous les êtres vivants, proches ou lointains, marchent dans la beauté.
Marcher dans la beauté. Ouais. Voilà une belle devise et une très bonne résolution en ce début 2020. Ça nous va tout à fait. On prend. Merci beaucoup, Xavier Mathias. Cher Jérôme Gagnès, je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager ce dessin de Philippe Geluck, le fameux papa du chat. Pour la nouvelle année, on voit le célèbre chat en train de se servir un verre de vin rouge et il s'exclame une année qui s'écrit 20-20. Ça s'arrose, non? Quel est votre vœu, Jérôme Gagnès? Je crains le pire.
Eh bien, non. Eh bien, moi, je suis comme le chat. Je dis que ça s'arrose. Et dans ce prolongement, je forme un vœu pour 2020. C'est qu'il y ait un petit peu plus de mesure dans le discours des hygiénistes et des addictologues. Et qu'on arrête de faire passer le moindre consommateur de vin pour un alcoolique en puissance. Des alcooliques, il y en a, c'est vrai. Et c'est très triste parce que c'est une maladie qui est terrible. Et ça se soigne comme une maladie. Mais tous ceux qui ont envie de boire un verre de vin au mois de janvier ne sont pas des alcooliques en puissance. Donc il y en a absolument ras-le-cul.
Là, vous faites allusion au Dry January, cette tendance anglo-saxonne,
voilà,
qui prône le non-alcool pendant le mois de janvier, histoire de récupérer après la fête. En même temps, on peut, moi, si je veux pas évoquer ma situation personnelle, mais on peut, dans son rapport au vin, se dire, là, on fait quand même une bonne pause après les agaves, met notre organisme au repos, ça fait pas de mal de boire de l'eau non plus.
Il est certain que quand on a fait des gueuletons à un rythme soutenu pendant une période, il y a un moment où il faut se reposer un peu, ça, personne ne le conteste, c'est une évidence même, mais de là à venir nous emmerder, à nous expliquer qu'il faut pas boire de vin au mois de janvier, allez vous faire voir, et encore une fois, il y a les alcooliques. C'est terrible, c'est une maladie, ça se soigne. Les addictologues, c'est leur métier. Pour le reste, qu'ils arrêtent de nous emmerder.
D'accord, donc les excès ne sont pas que du côté des consommateurs de vin.
Voilà,
ça
exactement.
Peut être du côté des
et d'ailleurs,
ce qu'on va qualifier d'hygiéniste.
J'en profite d'ailleurs pour parler très rapidement d'un livre de André Derieux qui s'appelle 50 jours pour comprendre autrement le vin aux éditions.
Mais vous avez le droit de nous dire ça sans vous énerver.
Ellipse, c'est un vin. C'est un livre formidable. C'est un livre qui est érudit, qui est amusant, qui est très bien écrit. On y apprend énormément de choses. André Derieux est un homme qui consacre sa vie au vin et à l'œnotourisme. Il a notamment créé un rendez-vous auquel je n'ai pas encore pu aller, mais j'espère bien en 2020 pouvoir y aller. C'est les rencontres des cépages modestes.
Et oui, évidemment.
Vous le reçut ici il y a quelques mois.
Absolument.
C'est un homme formidable. Et donc voilà, il vient de commettre cet ouvrage qui se lit d'un trait. Juste avec modération à côté, pour une fois, elle pourra rester là.
Mais là, vous pouvez le lire cul sec, il n'y a pas de problème.
On peut le lire cul sec. Modération est restée en Italie, là, elle a un petit problème.
Ça y est. Et vous nous rappelez les références du livre, s'il vous plaît?
Je vous rappelle les références du livre. C'est donc 50 jours pour comprendre autrement le vin d'André Derieux aux éditions Ellipse.
Merci beaucoup, Jérôme. Et en ce dimanche 5 janvier, jour de l'épiphanie, figurez-vous, pour ceux qui n'ont ni envie ni les moyens de mettre des sommes astronomiques dans une galette des rois signée par un grand pâtissier. J'ai regardé, ça va quand même jusqu'à 58 euros dans une certaine maison parisienne pour une galette de 6 personnes. Ça, c'est quand même un prix constaté. Et à ce prix-là, on se demande si la fève n'est pas en or massif. Il y a la solution aussi.
Il y a deux fèves en or massif.
Oui, c'est ça. Il y a la solution aussi de faire sa galette à la maison pour un coup de revient beaucoup plus raisonnable. Et pour ça, il y a un petit manuel, le manuel de la galette des rois, qui est signé Mélanie Dupuis, une pâtissière de formation qui a été dans des grandes maisons, et elle sort le petit manuel de la galette des rois aux éditions Marabout. Vous en avez entendu parler, Déborah ?
Oui, forcément. En plus, il est dans une série. Elle avait fait déjà le grand manuel du pâtissier, elle avait fait le petit manuel de la tarte, le petit manuel de la bûche, et là, effectivement, le petit manuel de la galette.
Comme chez le boulanger. Ça, c'est la promesse de Mélanie Dupuis, de faire vraiment une galette à la hauteur de celle qu'on peut trouver chez les meilleurs boulangeries. On y apprend à faire une pâte feuilletée, une crème d'amande, une frangipane. Allez, j'ai envie de piéger Jérôme Gagnel. La différence entre crème d'amande et frangipane.
La frangipane, c'est une crème d'amande avec un petit peu de crème pâtissière dedans. Et si on fait une galette avec uniquement de la crème d'amande, ça s'appelle un pitivier.
Monsieur à la culture.
J'essaye. Bon. Enfin, en tout cas, là-dessus, j'avais la réponse coup de bol.
Et ben, j'ai essayé de le piéger, ça n'a pas marché. On peut trouver également des déclinaisons beaucoup plus créatives de galettes. Et ce manuel très pédagogique avec de nombreuses photos et des explications est vraiment très astucieux pour faire sa galette à la maison. Et justement, j'ai rendez-vous cette semaine dans le labo de Mélanie Dupuis pour une leçon de galette. Vous pourrez retrouver dès cette semaine ce tuto filmé dans Tout un plat, notre collection de vidéos culinaires sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux de France Inter. Allez, assez poireauté, on se retrouve après le nouveau titre du chanteur britannique Baxter Dury, Slumlord. Et on va se retrouver après pour déterrer et vénérer le poireau. Bonne année à l'écoute de France Inter.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Ce n'est pas tous les jours facile d'être un poireau. Xavier Mathias, vous avez attiré mon attention sur cette description qu'en faisait le grand médecin Henri Leclerc, né en 1870. Il disait, ou il écrivait plutôt, que le poireau avait, je cite, un aspect de pitre blafard qui, la tête en bas, dresse en l'air ses jambes pantalonnées de vert, malgré la tignasse blanche qui se hérisse en un toupet grotesque sur son crâne déprimé de crétin microcéphale, emmanché d'un cou rigide et démesurément long. Sympa pour le poireau.
Ah ouais, mais j'adore les descriptions d'Henri Leclerc, en fait, parce que on sent qu'il prend plaisir lui-même à écrire comme ça, quoi. Et oui, notre pauvre poireau, c'est vraiment un légume populaire. Donc, comme tous les légumes populaires, comme les choux, etc., bah, il a affaire à des critiques logiques, et puis il a donné, ça a donné lieu à plein d'expressions, dont poireauter, par exemple. Poireauter, c'est être planté là comme un poireau, immobile, malgré l'hiver, le froid et tout. Alors que ça, pour moi, le poireau, c'est vraiment un des grands courageux du potager, quand même, parce qu'il tient le choc. Hein.
Il tient le choc, et notamment pendant les périodes de froid.
Oui, mais c'est ça qui en a fait un légume si populaire, en fait. Hein. C'est qu'on a un temps de récolte très très long, en fait, puisque...
La saison du poireau, Xavier ?
Alors, saison du poireau, alors pour moi, la bonne saison du poireau, même si elle peut être plus longue, ça va être, on commence à les sortir en octobre, jusqu'à on va arriver jusqu'au fin d'hiver, comme ça ils commencent pas à monter, ils restent bien tendres. Après fin d'hiver, tout début du printemps, ils commencent à monter, à avoir des hampes florales qu'on voit pas forcément, mais qui sont un petit peu dures. Après on peut faire autre chose, on peut faire du poireau baguette. Ça c'est un autre type de production, c'est avec grosso modo les mêmes variétés que le poireau d'hiver, sauf qu'on les sème complètement décalés. On va les semer au mois d'août cette fois, les repiquer à l'automne, et eux vont monter à graines beaucoup plus tard. Ils vont être beaucoup plus petits, d'accord ? Beaucoup plus fins.
Est-ce baguette. Que c'est aussi l'appellation qu'on peut trouver sur certaines cartes de bistrot ?
Poireau crayon ?
Oui, vous allez le dire. Ouais. Poireau crayon, oui, on voit souvent ça.
Alors, après,
la même question.
Léa, poireau crayon, c'est une expression que vous utilisez, justement ?
Oui, tout à fait.
Et vous les cuisinez aussi ?
On les cuisine aussi, oui, bien sûr.
Donc c'est quoi, on va dire des poireaux de petit format ?
C'est de petite taille, quoi.
Ou poireaux baguettes.
Voilà, c'est ça. Et là, bon, j'ai pas de reproche à leur faire. Non, mais les cuisiniers créent de la confusion quand même. Ah. Parce que on a aussi des poireaux type poireaux chinois, poireaux japonais, qui sont très fins aussi.
D'accord.
Et moi, je vous ai amené là du poireau perpétuel, qui est le poireau sauvage. Hein. C'est un poireau très fin aussi.
Alors,
au bout d'un moment, on s'y retrouve plus trop, quoi. On sait plus qui est qui.
Définition d'un poireau perpétuel, c'est un poireau qui pousse et repousse.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est c'est le poireau sauvage qu'on appelle aussi poireau des vignes.
Qu'on peut encore ramasser à l'état sauvage.
Voilà, on peut le ramasser à l'état sauvage. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi le cultiver, hein, tout simplement. Et quand on le cultive, on le retrouve sous le nom de poireau perpétuel, en fait.
D'accord.
Alors, il a un petit peu évolué. C'est plus tout à fait le même que celui qu'on va trouver sauvage, puisque ça fait quand même longtemps qu'il est dans les jardins.
Oui.
Néanmoins, c'est vrai que c'est pas. Alors, on va faire un tout petit peu de botanique rapide. Donc nos poireaux, c'est Allium ampeloprasum vaporum, ça c'est pour nos poireaux classiques, et ceux-là c'est la galaxie des Allium polyanthum.
D'accord.
En fait. Et alors caractéristiques, beaucoup plus fins.
Oui. Là vous évoquez un poireau d'une taille de d'une quinzaine de centimètres.
Ça ressemble à une cébette un peu. Ouais. Ça ressemble à presque la taille d'une cébette.
Voilà, oui. C'est ça. Donc sauf qu'on reconnaît bien les feuilles plates. Donc ça c'est poireau ou ail, hein, feuilles creuses. Ciboule, oignon, feuilles plates, poireau ou ail, hein, tout simplement. Et avec une saveur absolument hallucinante, hein, par contre. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sucré que nos poireaux classiques. Et après, on en a encore plein d'autres. Hein. On a celui-là, par exemple, qu'on appelle. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle.
Alors là, il a carrément un bulbe avant les racines.
Oui, voilà, c'est ça. On voit la grande proximité avec l'ail, hein, quand même. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'ail éléphant, qu'on peut appeler aussi le poirail, en fait, parce que dans le nord de la France, ils vont aussi le récolter en guise de poireau perpétuel. Vous voyez tout le piège, quand même, hein, des noms vernaculaires, des noms d'usage. Après, j'adore, moi, ça, cette idée que un même légume est plein de noms différents, qu'on le confonde et tout. Ça montre à quel point il est populaire, à quel point il est partout. Et tout le monde, en fait, c'est une façon de se l'approprier, de lui donner un nom. Et c'est à ça qu'on voit que le poireau, c'est vraiment un légume universel d'hiver, quoi.
Et justement, Xavier, c'est un légume bien de chez nous, pour une fois qu'on n'évoque pas un légume qui vient du Nouveau Monde.
Bah oui, c'est ça. Il vient du bassin méditerranéen, ce qui est assez rare, hein, en fait. Hein, et on a le chou, le poireau, mais c'est bien, parce que c'est deux légumes qui sont quand même bien restés, qui sont originaires des côtes méditerranéennes. Ouais.
Famille des Aliacées, vous l'évoquiez. Ouais. Donc botaniquement, on est assez proche de l'ail, de l'oignon.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cousin proche de l'ail, à le confondre, hein, presque. Cousin un tout petit peu plus éloigné des oignons, on va dire.
C'est ça.
D'ailleurs, j'ai une question de Corinne, en fait, qui nous dit le poireau, c'est très bon, mais comment faire pour éviter les odeurs quand on le fait cuire ? Et la tendance aux flatulences que peut avoir le poireau. Donc je fais le lien avec effectivement l'oignon.
On va peut-être poser la question avec à Léa justement. Est-ce que ça sent quand vous faites cuire du poireau? Parce que je sais que le poireau est vraiment un de vos légumes préférés au Cadoret, le bistrot de Belleville que vous tenez avec votre frère Louis. Ça sent mauvais dans la cuisine du Cadoret à cause du poireau?
Bah écoutez, non, pas vraiment. Moi, je trouve plutôt que ça sent bon. Je me suis jamais fait la réflexion, ni pour les flatulences d'ailleurs. Nous, on est ravis. Hein, nous, on a une cuisine ouverte, donc je pense que quand on fait cuire des poireaux, au contraire,
tout le monde
donne envie aux gens. Exactement.
Comment vous définiriez le goût du poireau, Léa? Parce que on disait effectivement avec Xavier qu'on était assez proches. On est dans la famille de l'oignon, de l'ail. On retrouve justement ces goûts d'oignon, d'aliacé.
Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que ça a quand même. Un goût de ces bêtes, de ce genre de choses, nous, qu'on adore au resto. Je trouve que le poireau, c'est assez représentatif. Je suis contente que vous m'ayez invité aujourd'hui, parce que je trouve vraiment que c'est un légume qui est représentatif de notre cuisine au Cadoret, qu'on essaye de faire simple mais précise, et qui a vraiment quelque chose de lié à l'affect et à la famille. Pour moi, le goût du poireau, c'est vraiment le goût de la cuisine de ma mère et de ma grand-mère et de mon enfance.
Vous avez des origines normandes, on peut le dire, par votre grand-mère?
Oui, tout à fait, oui.
Je crois même que le Cadoret, c'est un rapport avec votre grand-mère.
Oui, c'est vrai. C'est le nom du lieu-dit de la ferme de mon arrière-grand-mère et de ma grand-mère.
Waouh. Et quand je me suis attablé la première fois, figurez-vous, au Cadoret, en septembre 2018, je m'en souviens très précisément avec un ami à vous, Sébastien Mayol.
Ah oui, le bon Sébastien.
Bon vivant devant l'éternel, oui. J'ai eu droit dans une formidable formule déjeuner à 17 euros. Alors je crois qu'elle est passée maintenant à 18 euros.
Oui.
Mais ça reste une expérience extrêmement raisonnable à Paris, ouais. À ce niveau de qualité de produit.
Excellent bistrot.
Ouais. Poireau vinaigrette. Et je vous ai demandé, je l'ai exigé.
Bah oui, bon, j'allais pas venir sans.
Je vous ai demandé de nous les faire.
Oui.
Des poireaux vinaigrettes. Définition de vos poireaux vinaigrettes, Léa.
Alors, pour nous et pour moi, un poireau vinaigrette, déjà, il faut que les poireaux soient bien cuits, donc c'est assez.
Eh oui, mais alors, la cuisson, il y a débat hein, sur la cuisson des poireaux vinaigrettes.
Ça veut dire quoi, bien cuit, en fait? C'est oui. Ça la question.
Bah alors, je dis toujours bien cuit, mais c'est vrai que c'est relatif, mais. Ça doit être tendre. Mais pas trop, pas mou, pas surcuit, mais ça doit être tendre quand même. Moi, j'aime pas trop les poireaux.
Est-ce qu'on peut parler de... Ça peut se situer entre les deux F,
oui,
le ferme
tout à
et le fondant.
C'est une bonne façon de décrire la cuisson du poireau.
Mais il y en a qui n'aiment pas trop ferme non plus, parce ouais. Qu'il peut garder son côté un peu fibreux.
Bah, je dirais que ça dépend un petit peu des recettes aussi, mais en tout cas, pour là, le poireau vinaigrette, moi, je trouve qu'il faut que ce soit fondant.
Voilà. Et un poireau vinaigrette, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il ne doit pas être de couleur kaki, mais qu'il doit garder sa belle couleur verte?
Non, mais alors normalement, s'il n'est pas trop cuit, oui, il n'est pas kaki.
D'accord.
Et si on l'a aussi cuit dans une eau salée, bien salée, et puis refroidi ensuite avec des glaçons, avec si des on glaçons, a, ou de l'eau froide.
Pour fixer la chlorophylle.
Comme tous les légumes verts, il faut fixer la chlorophylle.
Et on peut constater, malheureusement, vous n'avez pas l'image à la maison, mais on constate que vos poireaux, vous gardez une partie du vert. Donc, il y a le fût blanc, évidemment,
oui.
Le tronc. Mais il y a également une partie des feuilles vertes.
Un petit peu, oui.
Un petit peu. Comment vous vous y prenez donc? On les fait cuire pour arriver à cette belle texture et cette belle couleur. C'est quoi comme stratégie de cuisson?
Alors nous, on a la chance au restaurant d'avoir un four vapeur, donc ce qui facilite un peu les choses. On les cuit selon la taille, entre 6 et 10 minutes mm-hmm. au four vapeur. Et on les sort, on les refroidit directement dans des glaçons.
Oui.
Et ensuite, on va les faire dégorger dans... Enfin, on va les faire... Voilà, dégorger pour qu'ils rendent leur eau.
Leur eau.
Voilà, on va les presser un petit peu pour qu'ils finissent de rendre leur eau.
Qu'ils ne soient pas trop flotteux.
Et voilà.
Très bien. Alors, vous les découpez en gros tronçons de quelques centimètres?
Voilà, de 5-6 centimètres environ. On peut mm-hmm. les tailler en deux quand ils sont vraiment... Là, ils sont plutôt petits, mais quand ils sont bien épais, on peut les retailler en deux. Ce qui est important, du coup, dans le poireau vinaigrette, c'est que ce soit bien nappé de sauce. Il faut que ça soit généreux en vinaigrette. Hein, quand même, c'est un plat où vraiment, il doit en rester bien dans le fond de l'assiette.
Est-ce que c'est le cas, Jérôme Gagné, est-ce qu'elle a la bouche pleine?
Oui, c'est le cas.
Bien assaisonné?
Oui, c'est très bien assaisonné. J'aime bien cette... Moi, je l'ai fait la vinaigrette, alors, évidemment pas aussi bien que Léa, mais j'aime quand elle est très relevée,
quand
très moutardée.
Vive.
Oui, très vive. Alors moi, j'aime bien le poireau. On parlait de la cuisson, c'est relatif. Moi, j'aime bien quand c'est un poil plus cuit.
D'accord.
Quand ça tire un peu plus vers le fondant.
Mais c'est une pure question. Il est assez croquant là.
Mais il a raison. Mais vous savez qu'il cherche toujours la petite bête. Et il a raison. Non, mais c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Et qu'on le garde. Et qu'on le garde en 2020.
Parce que ma mère me faisait des poireaux vinaigrettes absolument formidables, qui étaient très fondants.
D'accord.
J'ai un souvenir de ça extraordinaire.
Donc Léa, retenez une chose, vous n'arriverez jamais à la hauteur de la maman. de maman Gagnès.
Je n'essaye même pas. Il ne faut pas.
Il faut le savoir. Définition de votre vinaigrette pour relever justement des poireaux vinaigrettes, pour contraster le côté justement un peu fondant et moelleux du poireau. il faut une vinaigrette qui soit plutôt sur la vivacité.
Oui, il faut que ça soit tranchant, il faut que ça soit acide. Bon, de toute façon, au cadré, on aime beaucoup l'acidité, mais là, en particulier, il faut vraiment... Donc nous, on mélange de la moutarde forte et de la moutarde en grain,
oui,
qu'on va venir mélanger avec du vinaigre de vin rouge. Si vous n'avez pas de vinaigre de vin rouge, on peut utiliser du xérès, mais il faut un vinaigre quand même assez vif.
Je pensais que la Normande allait me dire vinaigre de cidre.
Ben non, mais le vinaigre de cidre, c'est bien, mais pas pour cette recette, parce que ça va être trop doux, et du coup, on va pas avoir ce côté un peu incisif. Mm-hmm. Et ensuite, on monte ça à l'huile neutre de tournesol ou autre.
Quelques capres?
Alors voilà, nous, on aime rajouter des capres. On aime beaucoup les capres et des cornichons parce qu'on les fait maison et que du coup, on en met un petit peu partout.
Donc là, vous faites presque une rabigote, en fait.
Un petit peu, ouais. C'est entre les deux. Et puis, bien évidemment, un œuf, un œuf haché qu'on a cuit 8 minutes. Donc vraiment, donc on aime les œufs. Voilà, nous, on fait jamais d'œufs durs. On n'aime pas trop les jaunes quand ils deviennent gris. Et on fait plutôt entre des œufs mollets et des œufs durs.
Quelle huile végétale pour la vinaigrette?
Nous, on utilise du tournesol au restaurant.
Tournesol au restaurant, je vais demander à Xavier de goûter quand même ses poireaux vinaigrettes. Notre amateur de poireaux. Et vous mettez effectivement quelques croûtons pour apporter de la texture et de la croustillance. Et ça donne les formidables poireaux vinaigrettes de Léa Fleuriot, qu'on peut trouver régulièrement au Cadoret ou pas? Est-ce que ça devient un classique de votre bistrot de Belleville?
Oui, bien sûr. On essaye quand même de faire plein de choses nouvelles. Hein, mais on est toujours tenté de les remettre de temps en temps à la carte parce que ça fait du bien de retrouver les plats simples du Cadoret.
On a des réactions sur nos réseaux sociaux et sur le mail de France Inter qui nous demande, c'est vrai que c'est une question assez épineuse auquel se confrontent beaucoup de cuisiniers amateurs et professionnels, comment se nettoie un poireau? Parce qu'en général, il est un peu terreux, il passe une partie de sa vie dans la terre, justement, ce qui explique peut-être son fût de couleur blanche, Xavier Mathias.
Voilà, il y a eu un travail de sélection pour avoir des fûts les plus longs possibles, et puis après, c'est par butage, c'est-à-dire qu'on ramène de la terre de chaque côté. Déjà, on les plante creux, pour commencer, on les plante à 10 cm, après, on va refermer le sol dessus, et après, on va le remonter encore deux fois dessus, pour avoir un fût le plus blanc possible. Alors effectivement, alors moi je vous donne juste comment je fais, mais d'un point de vue tout à fait cuisine familiale, moi je les fends en fait, tout simplement.
En deux
parfois en quatre, quand d'accord, ils sont gros, et puis je les passe sous l'eau claire.
Voilà,
pour moi, ça me semble être le plus simple.
Et vous les fendez en deux, évidemment ça va de soi, dans le sens de la longueur.
De la longueur, voilà, c'est ça.
Très bien. Léa?
Alors nous...
Comment on apprend dans les écoles de cuisine?
Comment on apprend à les écoles de cuisine? Alors ça, vous me posez une colle.
Ah non, oui, c'est vrai, vous n'avez pas forcément d'école de cuisine.
Je pense qu'on Alors, je ne sais pas si on nous apprend à les fendre ou pas. En tout cas, je sais que nous, on évite de les fendre au maximum, parce que du coup, après, ça boit beaucoup d'eau en fait à la cuisson. On enlève les petites radicelles là, tout en laissant quand même un peu de bulbe pour que les feuilles se tiennent. On enlève la première feuille. On essaye vraiment d'en enlever le moins possible. La première feuille, on va ou l'utiliser ou l'acheter au compost. Ensuite, on sépare le vert du blanc. Le vert, on l'utilise pour plein de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et le blanc, on va essayer de vraiment de le rincer à l'eau claire. Si vraiment c'est très terreux à l'intérieur, dans les feuilles intérieures, on va l'ouvrir un tout petit peu, mais vraiment sur pas une grande longueur, pour éviter de toucher trop au produit. Et voilà. Et puis quitte à renlever une autre feuille après cuisson et à le renettoyer, le repasser à l'eau s'il y a encore un peu de terre.
Très bien. Que faire justement avec du vert de poireau? On va se pencher sur la question avec vous dans un instant, Léa. Mais tout de suite, ce sont les prouesses culinaires de Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Déborah Dupont, le poireau serait la star d'un livre?
Alors ça a été ma grande interrogation quand on a commencé à plancher sur le poireau. Je me suis dit, mais a-t-on de la littérature sur le sujet? En fait, j'ai trouvé quatre ouvrages
exclusivement dédiés au poireau.
Exclusivement dédiés au poireau. Et parmi les quatre, j'en ai choisi un chez un éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rue de l'Échiquier et qui s'intitule « Tout est bon dans le poireau » de Virginie Perrotte.
Avec une jolie couverture à l'effigie du poireau.
Tout à fait, c'est un petit ouvrage, ça vaut vraiment pas cher, ça vaut 8 euros, on a 60 pages, enfin voilà, c'est vraiment tout petit, pas de photos, mais énormément de recettes et classées par texture. C'est-à-dire que d'abord, on a une introduction générale où on retrouve effectivement nos poireaux vinaigrettes, le bouillon, enfin des choses un peu classiques qu'on va faire avec le poireau. Et ensuite, 4 chapitres dédiés aux textures, donc le poireau fondant, le poireau croquant, le poireau onctueux et le poireau dessert.
On va pas jusqu'au poireau cru quand même.
On va pas jusqu'au poireau cru, mais enfin il y en a certains qui sont vraiment plus qu'al dente, donc voilà. Et là aujourd'hui j'ai choisi alors en priorité une recette du chapitre poireau croquant d'une tourte en fait, enfin d'une quiche plus exactement, quiche au poireau, bière et mimolette.
Oh c'est bon.
Qui est d'une simplicité étonnante.
Bon
Voilà. C'est très très bon. Oh là quand là. C'est simple, c'est très bon.
On sent la mimolette.
La mimolette, c'est quelle
mimolette idée. Vieille.
Ouais, mais quelle idée. Génial. Voilà.
C'est génial. Ah ouais. Ça apporte d'ailleurs une couleur légèrement orangée.
Exactement.
Qui va bien avec le vert du poireau.
Donc en fait, bon, on prépare une pâte avec tout simplement de la farine, du sel, du beurre et 2 à 3 cuillères à soupe de bière. Mm-hmm. Donc qui va donner un peu de la levure.
Donc une espèce de pâte à paille, de pâte à tourte.
Oui, de pâte, enfin une pâte brisée quoi.
C'est ça, une pâte brisée.
Voilà, on la laisse reposer. Pendant ce temps-là, on va faire cuire 500 grammes de poireaux. Le blanc est la partie tendre du verre. Moi, souvent, c'est ce que je fais, en fait. C'est que je coupe effectivement le blanc et ensuite, dans le verre, je récupère l'intérieur. Je retire les feuilles extérieures qui vont me servir pour un bouillon.
Qui sont carrément ligneuses. Ouais.
Voilà, qui vont servir pour autre chose ou pour le compost. Mais dans les feuilles vertes, on a quand même le cœur qui est d'un vert très tendre, qui est pas blanc, qui est pas vert soutenu. Et on arrive à en faire des choses pas mal.
Un peu plus oignon, un peu plus piquant.
Tout à fait, et qui permet d'obtenir aussi une texture un peu plus croquante. Mmh. Donc ces 500 grammes de poireaux, en fait, on va tout simplement les émincer, les faire revenir avec du beurre pendant 10 minutes. Ensuite, on déglace avec 10 centilitres de bière, on laisse réduire. Et on fait un appareil à quiche avec 2 œufs, de la moutarde, de la crème fraîche, un peu de farine, 10 centilitres de bière, du cumin, parce qu'en fait, il y a un petit peu de cumin comme épice. Et c'est une association que j'ai retrouvée dans beaucoup de recettes du livre. Mmh. On fait cuire la pâte à blanc, classiquement. Au bout d'un quart d'heure, on retire les légumes secs qui ont servi à ce que la pâte ne boursoufle pas. On rajoute les poireaux, l'appareil, voilà, on saupoudre de mimolette. Ouais. Et on fait cuire 45 minutes jusqu'à ce que la quiche soit bien dorée.
Et façon un peu, là, en l'occurrence, c'est un moule carré.
Oui.
Donc on fonce un moule, ça peut être un moule rond.
Tout à fait.
Et on fait une espèce de quiche aux poireaux, en fait.
Exactement.
Alors, Léa ?
Mais c'est délicieux.
Non mais franchement, c'est super bon. Non, vraiment très réussi, bravo. Enfin, en même temps, c'est pas votre recette, mais...
C'est pas ma recette.
Mais vous l'avez super bien exécutée. Vous nous rappelez les références du livre ?
Donc, Tout est bon dans le poireau, Virginie Perrotte, aux éditions Rue de l'Échiquier.
Et on peut retrouver la recette sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Vous avez croqué des choses devant vous à base de poireau, pas Xavier ?
Ouais, non, c'est vraiment très bon, très fondant, effectivement. Alors, juste un truc que je voulais dire à propos des poireaux, et de supprimer systématiquement des feuilles avant de les cuisiner. Si vous voyez dans les champs, déjà, ce qu'on enlève sur un poireau, je vous assure que entre le moment où on l'arrache, où on le récolte, et le moment où vous le cuisinez, je vous assure qu'il y en a beaucoup qui partent au compost.
Les poupées russes qui ont perdu beaucoup de couches.
Vraiment. Donc, se dire que ce travail qui consiste à supprimer l'extrémité des feuilles vertes plus dures et tout, on l'a déjà fait. Voilà.
C'est ça.
Donc, que le poireau, théoriquement, quand il arrive, quand vous l'achetez au marché, il est intégralement mangeable. Donc, ne pas perdre de matière. Si on a toujours ce geste de dire j'en enlève. Pourquoi ? On l'a fait ce boulot-là déjà. Et peut-être revenir sur l'idée des cuisiniers japonais qui voient 3 légumes dans un poireau. Il y a le fût, il y a le démarrage de l'engainement et il y a les pointes après. Donc peut-être que se dire parfois tout simplement c'est 3 usages différents, 3 cuissons différentes et comme ça on n'en perd absolument rien.
La leçon est retenue. Merci cher Xavier. Et justement, eh bien dans un instant, on va voir avec Léa Fleuriot qu'on peut faire des choses formidables avec ce qui finit en général au mieux à la poubelle, au pire à la poubelle, au mieux dans le compost, les fameuses feuilles très fibreuses, très vertes du poireau, et ben on va voir qu'on peut les récupérer notamment dans les cuisines du Cadoret.
on va déguster Caresse le poireau, dans le sens du poil. Et justement, des auditeurs font allusion aux expressions populaires à base de poireaux et des expressions, il faut bien reconnaître, qui sont assez peu reluisantes, d'un homme qui s'est fait des implants capillaires. On dit qu'il a un champ de poireaux sur la tête. Le poireau, c'est aussi cette verrue molle, en général surmontée d'une petite houppette de poils pas très fins et pas très délicats. Ça, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre littérature,
Xavier. Faut bien en parler, ouais.
L'expression poireauté, vous en avez parlé. Bon, il y a après, évidemment, les expressions salaces autour du poireau. Ouais. On peut les imaginer sans les citer. Ouais. Mais ça révèle quand même le... Il est mort de rire, Jean Mirette. Le potentiel puissamment érotique du poireau, quand même, de par sa forme, mais aussi par ses prétendues propriétés aphrodisiaques.
Ouais, ça ferait un très joli titre de livre, ça, le potentiel érotique du poireau. J'y pense. Ouais, donc, mais il a, effectivement, de toute façon, tous les aliacés ont énormément de vertus. Je rappelle que l'ail est une panacée, vraiment. Donc, le poireau, effectivement, a de grandes vertus. Les spécialistes du poireau, parce qu'il y en a, disent que pour ses vertus aphrodisiaques...
Vous voulez dire des médecins?
J'imagine. Vont parler plutôt du jus de poireau, d'ailleurs. Il faudrait faire un jus de poireau pour révéler toutes ses vertus aphrodisiaques. Voilà. D'accord. Donc ça, je laisse à chacun le choix de faire l'expérience ou non. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le poireau en jus est bon pour la gorge, par exemple. Et que l'empereur Néron était surnommé le poireauphage parce qu'il avait des prétentions de chanteur et qu'il buvait du jus de poireau régulièrement. Cette idée de poireau bon pour la gorge, on la retrouve vraiment, et pour se refaire la voix, etc., on la retrouve vraiment régulièrement. Et puis, oui, effectivement, il a eu cette réputation érotique. Et il y a elle est très jolie, la phrase du poète Martial, un poète de l'Antiquité romaine, qui dit « Si l'agent vieux dessert le nœud nuptial, les poireaux et les échalotes sont votre parti. » Donc moi, je mets des échalotes toujours dans les poireaux vinaigrettes.
Comme ça, Et comme ça, vous êtes en forme. Bah écoutez, c'est une très bonne résolution pour 2020, manger des poireaux, d'autant qu'il paraît que c'est aussi antioxydant et antimicrobien. Si je me réfère à votre littérature.
Voilà, c'est ça. Et là, on retrouve les vertus, en général, des aliacés. Hein.
Très bien. Déborah, quelques réactions?
Oui, une réaction par rapport au foin du poireau, qui pourrait être passé en friteuse, ou même
le foin,
aux petites...
C'est ces petites racines...
Les radicelles.
Ah. Il n'est pas très content,
on a une objection, là.
On est en 2020, j'ai décidé d'être très doux, très calme. Et donc, non, ce ne sont pas des radicelles, ce sont des racines fasciculées, en fait. Et alors, il y a un côté très rigolo, on voit hein, toutes ces racines maintenant travailler. Il y a un côté très paradoxal d'avoir des chefs travailler cette racine qui n'est pas passionnante et jeter un tiers du feuillage.
Oui, c'est vrai.
Ça me paraît un peu un paradoxe.
Vous dites que ça relève même du snobisme. Hein.
Bon, un petit peu.
Des tempouras, des petits beignets avec ces petites racines.
Voilà, après, moi je trouve qu'il y a un côté petit défi et bel exploit de la part de nombreux chefs de dire je jette rien, je travaille tout. Effectivement, ça peut avoir parfois un côté croquant, un côté rigolo.
Qu'est-ce que disait notre auditeur du coup?
Effectivement, les petites racines séchées au four ou bien passées à la friteuse et qui apportent du croustillant et puis une petite déco sur le plat.
Ouais, ça peut faire un peu des vermicelles végétaux à parsemer sur une assiette. Pourquoi pas, Léa, vous en pensez quoi? Vous travaillez les radicelles ou pas?
Non, nous on travaille pas les radicelles. En revanche, on travaille tout le reste du poireau.
Et bien justement, on y vient. Vous ne jetez rien dans le poireau. Et ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez révélé sur votre façon d'exploiter, d'utiliser, de recycler le verre du poireau, et ben en voilà un bel exemple de cuisine anti-gaspi pour 2020, allez-y.
Oui, en règle générale, nous, au Cadoré, on essaye de rien jeter. Hein. C'est ce qu'on a appris à l'école et qu'on essaye de faire.
C'est ce que vous avez appris à l'école, pas toujours, justement.
Hein. Oh, on apprend quand même à rien jeter, à récupérer les herbes pour les bouillons, les choses comme ça. Et c'est vrai que, éthiquement et économiquement, il faut le faire. Nous, on le faisait déjà beaucoup au Cadoré. Et quand ma seconde, Anna, est arrivée, elle avait travaillé chez Florent Laden, qui lui est quand même un jusque-boutiste de ne rien jeter.
Formidable.
Et du coup, elle avait plein de petits conseils à nous apporter, ce qui était super, dont la fameuse huile de verre de poireau.
Alors,
donc nous, on jette jamais les verres de poireau. Ou on fait de l'huile, comme je vais vous expliquer. Ou on les utilise dans les nombreux jus et cuissons. De toute façon, on a plein au Cadoré. Et si vraiment on a beaucoup, on les passe au compost. Mais généralement, c'est utilisé, les verres de poireau.
Et déjà, le verre de poireau a un fort pouvoir aromatique. Et il fait déjà partie, historiquement, dans la culture de la cuisine française, il fait partie du bouquet garni.
Tout à fait.
Donc, c'est-à-dire, on n'utilise pas le verre de poireau pour sa texture, puisqu'elle est fibreuse. Mais en revanche, pour son goût très prononcé, pour parfumer des bouillons.
Dans toutes les cuissons. on en met.
L'huile de poireau, alors comment on fait?
Alors bah, tout simplement, on va venir prendre le verre de poireau donc on a bien lavé, l'émincer en petits morceaux pour que ça mixe plus facilement. Mm-hmm. On va mixer ça avec une huile neutre, nous on utilise de l'huile de tournesol.
Dans un robot mixeur, un blender?
Oui, voilà, exactement. Ensuite, on va la passer dans une passoire fine. On va récupérer ce qui va vous rester dans la passoire, ce qu'on appelle nous la pâte de poireau, mm-hmm. qu'on va utiliser pour assaisonner une salade de pommes de terre, une mayonnaise, plein de choses en fait. Mm-hmm. On les met, c'est vraiment, c'est un petit goût un peu bah, de cébette quoi. Ça, le petit côté cébette qui est un peu punch et du coup ça vient raviver plein de choses.
Ouais.
Et l'huile, alors ou vous l'utilisez telle quelle, mais il va y avoir encore un petit dépôt, ou alors vous la mettez dans une boîte et vous la congelez, ce qui va permettre de déposer l'eau et les petites particules de poireau qui restent. Du coup, vous allez, une fois congelé, vous allez pouvoir racler cette partie-là et avoir vraiment une huile super nette. Vous Très la bien. Faites reprendre en température, vous la mettez dans une petite bouteille. Et ça, vous pouvez faire des mayonnaises, vous pouvez assaisonner des salades et faire plein de choses avec.
Et notre amie Chloé Charles, spécialiste aussi, une cuisinière spécialiste de la cuisine anti-gaspille, suggérait d'ailleurs, la recette est en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster, on l'avait évoqué il y a quelques mois, une mayonnaise montée avec une huile végétale qui s'était imprégnée justement de ce verre de poireau qui avait été mixé avec cette huile de pépin de raisin ou huile de tournesol. On passe dans une petite passoire pour enlever évidemment les fibres du poireau et on obtient cette huile verte. Et d'ailleurs, ça donne une mayonnaise de couleur verdâtre tout à fait agréable. Vous utilisez même ce qu'il vous reste au fond du chinois, au fond de cette fine passoire, c'est-à-dire les fibres du poireau, vous les réutilisez aussi?
Bah oui, moi j'aime bien, je trouve que vraiment... On les réutilise, donc, comme je vous disais, soit pour assaisonner des petites salades, ça va très bien avec de la pomme de terre. Et aussi, Déborah, nous aussi, on fait une tourte au poireau, au cadoré, et donc on l'utilise pour rehausser la béchamel de cette tourte au poireau. Et on utilise l'huile pour assaisonner la salade.
Formidable, tourte au poireau. Tourte au poireau avec la pâte à tourte, une béchamel, une fondue de poireau. Vous utilisez absolument le poireau vraiment de A à Z.
Alors nous, on utilise le poireau entier. Contrairement à la recette de Déborah, on va garder le poireau entier qu'on va faire cuire à la vapeur ou à l'eau bouillante, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on va venir ensuite tailler en deux dans le sens de la longueur. Mmh. Et donc, on va abaisser notre pâte à tourte en forme de rectangle. On va venir mettre une belle couche de béchamel qu'on va travailler bien, pas trop épaisse, hein, pas la béchamel un peu qui tient au corps. Bien fluide avec de la noix de muscade, du fromage si on a beaucoup d'amour, cette pâte de poireau, faire quelque chose de gourmand. On va venir étaler une première couche, disposer nos petits poireaux les uns à côté des autres, recouvrir encore de béchamel et on va venir reposer donc le sommet de la tourte.
On abaisse,
on colle les petits côtés avec du jaune d'œuf, on dore et on met au four 20 minutes.
Cheminée ou pas?
Non, pas de cheminée. Pas de cheminée.
Ah, là, vous évoquez le petit trou au sommet de la tourte.
Avec la vapeur ou pas.
Et donc, là, pas de cheminée.
Non, pas de cheminée.
La recette est assez simple à faire. Elle a le mérite de recycler, encore une fois, ou d'utiliser l'intégralité de ce légume qui est le poireau. La tourte au poireau, signée Léa Fleuriot, sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Il y a des variétés incroyables. Je me demande même si j'ai pas pris des psychotropes, si on n'est pas dans Purple Rain, quand je le vois. un poireau qui, pour le coup, n'a pas les feuilles vertes, mais carrément les feuilles violettes.
Oui, alors il y a eu un gros travail de sélection sur les poireaux, particulièrement à la fin du 19e, comme d'habitude, et on s'aperçoit qu'on a cherché à développer un fût le plus blanc et le plus long possible.
Car c'est la partie douce et tendre.
Voilà, mais aussi une résistance au froid la plus élevée possible. Et alors ça fait des poireaux souvent qui sont un petit peu plus durs malgré tout. Donc on a essayé de garder un petit peu les deux. Pour l'été et l'automne, des poireaux plus doux, donc qui vont être plus verts, plus jaunes, et des variétés pour l'hiver qui donc sont forcément plus bleus. Et ce qui est vachement rigolo, c'est qu'on le trouve dans le nom des variétés. En poireaux d'été, vous avez le jaune gros du Poitou.
Voilà, le jaune gros du Poitou.
Voilà, il est vraiment très très clair celui-là, il est presque jaune en fait.
D'accord.
Et puis après, si on monte le curseur et qu'on va vraiment dans les résistants au froid, on arrive au bleu de Solèze.
Ah.
Donc on passe du jaune au bleu, véritablement.
Alors là, Solèze, vous évoquez une commune du département du Rhône, 69, on est dans la région lyonnaise, et il y a une tradition d'un poireau qui est peut-être bien en France l'un des plus résistants au froid, et c'est lui qui développe, j'y faisais allusion, ces feuilles qui sont véritablement violettes. Vous voyez un champ de poireaux à Solèze, encore une fois, vous avez pris des champignons hallucinogènes.
Ah oui, c'est étonnant, étonnant à voir.
Vous l'avez là?
Oui.
Brandissez-le. Voilà. Brandissez votre poireau.
Avec plaisir. Donc on voit bien quand même les reflets clairement bleus qu'il peut prendre. Et si on met à côté d'un jaune gros du Poitou, on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas du tout les mêmes. Hein,
incroyable. En fait. Il y en a un qui est très clair, le bien foncé.
Ah oui, voilà. Ouais.
Donc ça veut dire que la couleur du vert, excusez-moi, la couleur du feuillage, Xavier, est presque. C'est une réaction thermique. Enfin, c'est une réaction au froid.
Voilà, c'est ça. Et donc, et les poireaux, ils ont cette particularité, quand il va faire très froid, ils évacuent l'eau qu'ils contiennent pour pas que l'eau gèle dans les interstices entre les cellules et qu'elles éclatent, en fait. Hein. Donc, regardez les champs de poireaux, quand ils gèlent, vous apercevez que les feuilles sont complètement mollassonnes, qu'elles touchent par terre, etc. Ça, c'est son mode de défense contre les rigueurs de l'hiver. Donc, pour les jardiniers aussi, se dire que ce qui est bien, c'est de cultiver du Poitou pour le début de la saison, et puis après choisir des variétés bleues, plutôt bleues, pour être sûr qu'en plein hiver, on ait toujours des poireaux à récolter.
Très bien, merci Xavier, il est décidément passionnant, notre pote du potager. Dans un instant, on évoque un superbe mariage entre le poireau et un produit de la mer qui est le
haddock.
Le haddock avec Léa, mais pour l'heure, est-ce que vous êtes prêts à une petite énigme bachique?
Ben, avec plaisir.
Ouais, ça circule dans le verre, visiblement c'est à l'aveugle. Réponse, solution des jeux plutôt avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Alors il y a des instructions en plus.
Alors il y a des instructions, parce que je voudrais que tout le monde goûte le vin qui est dans le verre, c'est un vin rouge. Je voudrais que vous goûtiez, que vous me disiez très franchement ce que vous en pensez.
Oh, c'est délicieux. Ça, le Dry January, il va pas se faire cette année. Non, je rigole. Non, pardon. On n'a déjà rien dit. Non, c'est délicieux. C'est fondu, c'est à la fois il y a une belle minéralité.
Ouais, c'est un 2016, c'est un vin, c'est... effectivement, les tanins sont fondus, il y a un très joli fruit, il y a un caractère un peu floral. La robe est plutôt claire. On identifie là un pinot noir.
Oui.
Et c'est un pinot noir qui naît sur un terroir qui est un terroir très 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 proche, quasi équivalent à la Côte de Nuit, à la Côte de Beaune plutôt d'ailleurs, un peu plus, c'est 15 cm de terre, et puis ensuite des calcaires très durs du bâtonnien, des calcaires fissurés qui permettent aux racines d'aller chercher de la fraîcheur, d'aller chercher de la minéralité, d'aller chercher des nutriments, de plonger bien en profondeur. Ce vin, je vous en parle parce qu'en fait, je le connais depuis longtemps, j'avais été impressionné, j'en ai retrouvé une trace dans le livre de notre ami André Derrieux à la page 30 dans un chapitre qui s'appelle Petit vignoble avec un point d'interrogation. Et je me suis dit que avec le poireau, le caractère très végétal, c'était un peu compliqué d'associer un vin, surtout que moi je pensais au poireau vinaigrette, tout ça, donc moi qui dis vinaigrette dit pas de vin, parce que c'est vraiment un problème.
Évidemment, surtout quand la vinaigrette est celle de Léa, c'est-à-dire
qui était remarquable en plus de ça. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais m'échapper un petit peu, et puis je tombe là-dessus, je me dis, bah tiens, ce serait l'occasion de parler de ce vignoble, parce que c'est une vraie surprise. Est-ce que vous avez dit de l'endroit d'où ça vient?
Là, je suis un peu paumé, mais voilà, il va nous ridiculiser évidemment.
ça vient d'un vignoble qui est situé à Saint-Pierre-sur-Dive. Nous sommes à 38 km de Caen et à 30 km de Lisieux.
Vous nous faites une blague.
Et à 16 km de Livarot.
Il y a donc dans le pays de Léa Fleuriot, la Normandie,
ça s'appelle
du vin.
Les Arpents du Soleil.
Mais bien sûr, oh là là, je les ai déjà goûtés en plus, je m'en veux beaucoup.
Ça s'appelle Les Arpents du Soleil. C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Sanson, notaire de son état, qui a fait revivre ce vignoble. Sa famille était viticultrice, était des viticulteurs à Argenteuil au 19e siècle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, en 1800, Argenteuil était le plus gros vignoble de France, le plus gros village vigneron de France.
Incroyable.
Et donc, il avait gardé un tropisme et une dilection pour le vin. Il a fait des études de droit, il a été notaire, et puis pendant ses études, il avait remarqué qu'il y avait un vignoble très ancien, situé là, qui avait survécu au petit âge glaciaire après le Moyen-Âge, et donc il y avait bien une raison pour laquelle on avait continué à planter de la vigne. Et bien c'est parce que sur cette colline de Grisy, il y a vraiment une conjonction de terroirs tout à fait particulière, il y a réellement des très 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 grands calcaires, c'est un très beau terroir argilo-calcaire, vous faites 50 mètres, Vous traversez le chemin, vous avez 8 mètres de terre et c'est de la terre à betterave. Vous avez vraiment là, sur la colline de Grisy, un terroir tout à fait formidable. Et il sort un rouge. Moi, la première fois que j'ai goûté ce vin, c'était il y a assez longtemps. C'était l'Impinot. J'ai littéralement été scié par la qualité du vin.
Mais
scié.
Et là, on est sur quel millésime?
Et donc ça, c'est un 2016.
D'accord.
Et donc voilà, donc au-delà de la curiosité, parce que c'est marrant la curiosité, mais en même temps, la curiosité, ça se boit pas. Je veux dire, par là, que il faut que ce soit bon dans le verre. C'est toujours ce qui guide mes chroniques. Il faut que ce soit le point de départ, c'est ce qu'il y a dans le verre. Est-ce que c'est bon ou pas? Puis après, si c'est original, on est content, mais à la réalité, on s'en fout un peu. Il faut que ce soit bon. Et donc là, c'est très bon. C'est vraiment très bon.
Incroyable.
C'est un très joli pinot. Et c'est fait par un homme passionné. Il a 6 hectares. Il fait des blancs. On a goûté tout à l'heure, pour ceux qui ont goûté, je vous ai servi un vin qui est un assemblage, qui est la cuvée Connivence, qui est un assemblage de Müller-Thurgau, de Sauvignon, de Chardonnay et de Melon de Bourgogne. Mm-hmm. Sur un côté végétal qui n'était pas inintéressant sur ta tourte, chère Déborah, c'était même assez joli. Et
très bonne tourte.
Donc d'ailleurs. Voilà, excellente.
Je suis revenu. Hein.
Oui, moi aussi, elle est terminée. D'ailleurs, si jamais il y en a un peu de rab, j'en veux bien. Et donc voilà, donc ce vignoble, c'est un monsieur qui travaille ses 6 hectares sur, encore une fois, un grand terroir qui rappelle la côte de Beaune avec un pinot qui a toutes les caractéristiques d'un beau pinot de terroir. Et voilà, ça s'appelle les Arpents du Soleil, ça vaut 12,50€ la bouteille. Alors c'est des bouteilles de 50 centilitres parce que c'est une toute petite production, mais 12,50€ c'est un prix qui est, encore une fois, compte tenu de la qualité du vin, d'un pinot. Allez me trouver des pinots de cette qualité-là, oui, à ce incroyable, prix-là, incroyable. Ça devient quand même très compliqué. Pour si on voir, en trouve dans le Sancerrois, on en trouve des très bons Sancerrois en Pouilly et en Mentoux-Salon. Mais voilà, là, un très beau vignoble, bravo. Ça s'appelle les Arpents du Soleil, c'est Gérard Sanson, c'est à Saint-Pierre-sur-Dive, et je vous encourage à aller lui rendre visite parce qu'il est passionnant.
Bah c'est vraiment une très très belle découverte, même si je connaissais, j'avais déjà goûté, mais là j'avoue que à l'aveugle effectivement, on est tout à fait sidéré pour boire la Normandie autrement qu'avec du Calvados ou du cidre.
Cher bien, à notre ami Dominique Hutin.
Absolument, et c'est d'ailleurs Dominique Hutin qui nous avait parlé une première fois des Arpents du Soleil. Il y a du vin et du bon en Normandie, c'est une excellente nouvelle. Xavier.
Oui, alors moi je suis tout à fait sidéré, d'autant que j'ai vécu pas très loin de Saint-Pierre-sur-Dive et j'étais pas du tout au courant. Donc aller à Saint-Pierre-sur-Dive, il y a une deuxième bonne raison, c'est qu'il y a là-bas l'association Mon Viet Nature, qui est une association justement qui travaille énormément sur le patrimoine des variétés normandes et qui fait un travail fabuleux. Et ils ont un conservatoire et ils veulent vraiment la rencontre, eux aussi, en même temps, profitez-en.
Le grand public peut s'y rendre ?
Bien sûr, oui, oui. Mon Viet Nature, c'est absolument exceptionnel.
On vous mettra les références sur le site internet de l'émission. Merci pour ce conseil. Donc une double raison, une deuxième raison pour aller à Saint-Pierre-sur-Dive. Merci beaucoup. On finit avec ce mariage dont je parlais entre la terre, incarnée par le poireau, la mer, avec le haddock, hein, qui est donc ce poisson fumé, de couleur un peu orangée, hein, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Quel sort vous lui avez réservé, Léa Fleuriot ?
Écoutez, du coup, tout d'abord, on a enlevé la peau.
Oui.
Qu'on a fait infuser dans de la crème liquide.
Alors là, on ne parle pas de la peau du poireau, hein, on parle vraiment de la
peau
du poisson.
La peau du haddock, tout à fait. Qu'on a fait infuser dans de la crème liquide.
Vous récupérez la peau.
Oui, bah toujours dans cet état d'esprit de tout utiliser en produit, surtout que le haddock, c'est délicieux, et le fumé que peut donner le haddock, c'est délicieux. Mm-hmm. D'ailleurs, on l'utilise aussi parfois pour faire des sauces de poisson aussi, autre chose. Hein, mais là, en l'occurrence, on l'a fait infuser dans de la crème, mm-hmm. 10 minutes, un quart d'heure à feu doux. Ensuite, on a laissé aussi comme ça à reposer jusqu'à ce que ça refroidisse un petit peu.
Ouais.
On le passe encore au chinois mm-hmm. pour enlever le...
Bien sûr.
Voilà, tous les petits morceaux de haddock. Et la crème qu'on va récupérer, on va le mélanger à du jaune d'œuf pour l'épaissir un petit peu et la mettre en siphon.
Oui.
Voilà. Ce qui va nous donner une mousse crème de haddock avec le petit côté fumé.
Ouais.
On va cuire le poireau de façon classique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure.
Comme pour le poireau vinaigre.
Voilà, qu'on va couper en tronçons comme pour le poireau vinaigre.
8 minutes à la vapeur.
Exactement. On va l'assaisonner cette fois-ci avec de l'huile d'olive et du jus de citron. Et on va venir aussi incorporer des petits morceaux des petites tranches fines de haddock.
Des petites lichettes de haddock, très bien.
Moi, j'aime mettre un peu d'aneth, un peu de coriandre avec. On mélange tout ça, on réassaisonne.
Oui.
Et ensuite, on vient mettre un petit peu de panure qu'on a passé au beurre pour le petit côté croustillant. Et on vient déposer la mousse de haddock dessus.
Splendide, alors allons-y. Cette mousse-là, oulala, ça y est. Oh là là, joli. Une chantilly de haddock en quelque sorte pour accompagner cette salade de poireaux au haddock. Une très très belle recette à retrouver sur franceinter.fr. À la page On va déguster, vous l'aurez compris chers amis, il y a souvent du poireau à la table du Cadoret. La table de Léa Fleuriot et de votre frère Louis qui en fait a un prénom composé. Hein.
Louis-Marie,
tout à fait. C'est Louis-Marie, pardon. 1 rue Pradier, Paris 19e. Merci beaucoup Léa pour votre générosité.
Merci à vous.
La semaine prochaine, la cuisine italienne revient au menu d'On va déguster. Même pas la cuisine italienne du soleil, de la tomate, de la mozzarella. Une cuisine italienne de montagne, nourrie au fromage fondu et au speck, c'est la passionnante cuisine des Dolomites. Alessandra Pierini, Éric Morin, Dominique Hutin feront partie du voyage. On retrouve bientôt Xavier Mathias pour une autre émission Légumes, puisque c'est un habitué de l'émission. Merci Xavier, à très bientôt.
Avec grand plaisir.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Et Déborah, Jérôme, on souhaite encore une bonne année à nos auditeurs.
Une très belle année, oui.
Très bonne année, on vous souhaite le meilleur à boire et à manger.